Bonjour à tous, bonjour à toutes, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là ce matin. Nous sommes installés sur cette place de l'Hôtel de Ville, très confortablement, pour une heure avec Andrei Kourkov et son traducteur Paul Lequen. Je vous remercie de les accueillir très chaleureusement. Alors mes enfants, quand ils me voient travailler, ils me disent... Oui, en fait, ton travail, c'est d'abord de lire des livres dans le hamac ou sur le canapé. Et puis après, tu discutes, quoi. Tu discutes avec les auteurs. Et là, carrément, aujourd'hui, je vais bronzer, même. Ça, c'est un chouette métier. Je suis très heureuse d'être là. C'est une rencontre qui s'intitule « Un auteur et son traducteur » qui est organisée en partenariat avec le Centre international des traducteurs littéraires qui est basé à Arles et qui, donc, tout au long de l'année... mène des actions évidemment sur les questions de traduction, mais accueille des traducteurs du monde entier pour des résidences. Les traducteurs peuvent être hébergés et travailler avec les auteurs ou seuls. Ils ont tout un centre de documentation à leur disposition et c'est un lieu extrêmement précieux pour le soutien et la défense du métier de traducteur dont il va être question aujourd'hui. Donc à cette occasion, la rencontre est organisée en partenariat avec ce CITL, Andrei Kourkov et Paul Lequen étaient à Arles hier soir pour présenter le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, les Assises internationales de la traduction littéraire auront lieu dans un gros mois, du 9 au 11 novembre, à Arles. Il y a quelques programmes qui sont disponibles sur la table de la librairie et au point info. N'hésitez pas, si ces questions de traduction vous intéressent, c'est un rendez-vous fabuleux avec des ateliers ouverts à tous, des conférences, des rencontres. On s'y amuse beaucoup et on apprend beaucoup. Voilà, c'était un petit mot sur les Assises de la traduction. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous rencontrer. Quand j'ai reçu le livre parmi les 15 que j'avais à lire ce mois-ci et que j'ai vu... le poids du roman, je me suis dit, oh mon Dieu, presque 700 pages. Et après, quand on est dedans, on se dit, génial, il fait 700 pages, c'est trop bien. On va en parler, c'est Vilnius, Paris, Londres d'Andrei Kourkov. Je vais vous présenter nos deux invités et on va passer une heure dans les pages de ce roman à débattre surtout, à interroger nos invités sur les questions de traduction, puisque c'est l'axe que nous nous sommes donné pour cette rencontre. Andrei Kourkov, vous êtes écrivain ukrainien d'origine russe. Vous êtes né près de Saint-Pétersbourg en 1961. Vous vivez à Kiev, en Ukraine, depuis l'enfance et vous avez partagé une partie de votre vie avec Londres, je crois. Vous avez vécu quelques temps à Londres aussi, mais vous écrivez dans votre langue maternelle, le russe, donc installé à Kiev, en Ukraine, et vous écrivez en russe. Vous avez suivi des études de pédagogie des langues étrangères. Vous avez exercé plusieurs métiers, rédacteur, gardien de prison à Odessa, mission pendant laquelle vous avez commencé à écrire des contes pour les enfants. Vous avez été aussi caméraman, scénariste de films, de documentaires, chanteur, compositeur et collectionneur de
amateur,
vinyles.
je n'ai pas des voix.
Chanteur amateur, compositeur amateur et collectionneur amateur de vinyles. Alors, vous affirmez, selon les sources, parler 6, 7 ou 11 langues.
Aujourd'hui, 6.
Aujourd'hui, 6. Donc, ça varie. Selon les années, ça varie. Alors, juste pour éclaircir ce point, quelles sont les langues que vous maîtrisez, Andrei Kourkov ?
Russe, ukrainien, polonais, allemand, anglais, français. Je comprends l'italien très bien, mais je parle mal. Et je fais des études des langues de japonais, mais je ne parle pas. Je peux comprendre, mais je ne peux plus écrire.
Vous n'écrivez pas, mais vous comprenez le japonais.
Un peu, oui.
Un petit peu. Oui. Bah, écoutez, moi, je...
C'est une langue très facile pour parler. Et très difficile à écrire. Oui.
Très bien. Et ben, tout ce projet. D'où est-ce que ça vous vient, toute cette passion là, pour apprendre les langues les unes après les autres?
Ça commençait avec des cactus, parce que les cactus ont les noms latins. Et c'était la langue première que j'ai appris, latin botanique.
Donc vous parlez aussi le latin botanique?
Je parlais avec mes cactus, bien sûr, latin botanique.
Très bien. Donc, du coup, on est bientôt à 11 langues quand même. Si on ajoute le latin botanique et le japonais peu l'italien.
Je parle des romaniens.
Voilà, d'accord, très
un
bien.
Un peu georgien.
Donc, du coup, toutes les sources sont bonnes, 6, 7 ou 11 langues, peu importe. En tout cas, vous êtes polyglotte. Et donc, ça, c'est assez impressionnant. Vous êtes président de l'Union des écrivains ukrainiens.
Dans le passé.
dans le passé. Je suis
vice-président de Pen Club ukrainien maintenant.
D'accord. Alors que vous écrivez en russe.
En russe et en ukrainien. J'ai publié cette année un livre non-fiction que j'ai créé en ukrainien.
Donc du coup, les deux langues sont des langues d'écriture. 12 de vos 20 romans sont disponibles en français grâce au travail remarquable des éditions Liana Levy qui sont bien présentes sur le festival. Je vais citer parmi votre longue bibliographie notamment Le Pingouin. Peut-être que certains d'entre vous auront lu ce beau succès qui a été traduit dans plus de 30 langues. Et puis citer cette suite que vous lui avez écrite quelques années plus tard, Les Pingouins n'ont jamais froid. Je vais surtout citer les livres parmi votre bibliographie que Paul Lequen a traduit. L'étier de nuit, c'était le premier pour vous, Paul, en 2010. Surprise de Noël, Le jardinier d'Otchakov, Journal de Maïdan, en 2014. Le concert posthume de Jimi Hendrix. Ça, c'est la liste des titres traduits par Paul Lequen. Et donc, évidemment, celui qui nous rassemble aujourd'hui, les 600 magnifiques 637 pages de Vilnius, Paris, Londres. Et c'est donc Paul Lequen, ici présent, qui en a assuré la traduction littéraire. Vilnius, Paris, Londres, vous êtes né là. Oui, pardon, Vilnius, Paris, Londres, donc c'est le roman dont nous allons parler, donc c'est Paul qui l'a traduit. Paul, pour vous présenter de votre côté, vous êtes né, vous, la même année qu'Andrei Kourkov.
Oui, donc, quand j'ai appris qu'il était né, j'ai...
Vous êtes arrivé. donc, en quelle année? Voilà, je voulais juste vérifier ça. Vous êtes né, Paul, au sein d'une famille pas du tout russophone de votre côté.
Pas du tout russophone.
Vous avez choisi d'apprendre le russe au lycée de Ruelle Malmaison pour faire l'original et vous démarquer des copains.
Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, en fait.
Je sais que c'est plus compliqué.
Je voulais pas faire de l'anglais comme tout le monde. Donc ça, c'était un point qui était réglé dans ma tête.
Et vous ne pouviez pas faire d'allemand.
Et je pouvais pas faire d'allemand parce que c'était interdit à la maison. Voilà. Et donc, il restait que le russe en première langue au lycée. Voilà. Et le premier cours de russe était tellement extraordinaire que j'ai su tout de suite que c'était ça, quoi, qu'il fallait persévérer.
C'était votre langue et vous n'avez jamais arrêté. Vous avez continué vos études, une classe prépa, une école d'ingénieur. Vous avez longtemps travaillé pour EDF comme chercheur et comme ingénieur, tout en gardant ce lien avec la langue russe et les études. Vous les avez
oui, jamais... je dois remercier EDF d'avoir financé mes premières traductions.
Vos études de
sans le savoir.
Plusieurs rencontres ont alimenté votre passion pour le russe. Un premier séjour en Russie à 12 ans et la découverte de l'opéra du Bolchoï à ce moment-là, dans l'enfance.
Oui, c'était la première fois que j'allais à l'opéra même.
Excusez-nous du peu. Tant qu'à faire, autant commencer par le Bolchoï directement. La découverte donc de cet opéra et un livre comme une révélation, c'est comme ça que vous le présentez, Zo, lettre qui ne parle pas d'amour ou la troisième Héloïse de Victor Chlovsky. Qu'est-ce qu'il a représenté comme choc ce livre-là?
Alors ce livre-là, je l'ai découvert, j'avais 15 ans en fait, hein, et je l'ai trouvé, il était dans un bac en solde devant la vitrine de la librairie du Globe à Paris, qui était une des deux librairies russes de Paris. Et j'ai ouvert ce livre et je l'ai trouvé tellement extraordinaire, tellement différent de tout ce que je connaissais jusqu'alors. Hein. Le ton était particulier, c'était un livre qui parlait de tout. C'est un livre d'amour qui n'a pas le droit de parler d'amour. C'est un sujet en soi intéressant. Un roman par lettres. C'est un échange entre un intellectuel russe et une femme qui s'appelle Alia, mais qui en fait est Elsa Triolet. Et comme il n'a pas le droit de parler d'amour, parce que Alia ne veut pas en entendre parler, il parle d'autre chose et autre chose. Et ben, il parle de littérature, il parle d'écrivain, il parle d'art, il parle de voiture aussi, parce que c'est un passionné d'automobile. Et il parle aussi du retour, de l'exil. Et en lisant ce livre, je me suis dit, ah, ça, c'est un livre que j'aurais aimé traduire. Et que j'ai eu la chance plus tard de retraduire, justement.
Ça s'est produit. Il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner dans votre amour qui s'est augmenté de toutes ces expériences pour le russe. C'est surtout que vous étiez tombé amoureux de deux actrices.
Oui. Bah oui.
Vous ne le dites pas, donc je le dis.
On ne peut rien dire, hein, tout se sait.
Mais tout se sait, tout se dit. Donc vous étiez amoureux de deux actrices.
Oui, parce que quand j'étais en CM2, donc juste avant d'entrer au lycée, j'avais vu au Ciné-Club, à la télévision, Quand passent les cigognes et La balade du soldat, qui sont deux chefs-d'œuvre insurpassables du cinéma mondial, je pense. Avec deux actrices éblouissantes et qui...
Il parlait russe.
Qui hante encore mes rêves.
Parce que le CM2, ça commence à remonter un petit peu, mais elles sont toujours bien là.
Mais oui.
Voilà, vous pourrez regarder ces films à nouveau et avoir une pensée émue pour Paul Le Ken. C'est aussi à travers le cinéma que vous avez rencontré Andrei Kourkov, si oui. J'ai bien compris, en voyant un film adapté de l'un de ses romans, L'ami du défunt. Et vous vous êtes mis à la traduction finalement un peu par goût, bien sûr, mais par hasard aussi, une rencontre avec Michel Parfenoff en 1992 avec les éditions Solin, qui vous confie le journal confisqué de Mikhaïl Bulgakov. C'est un des premiers textes qu'on vous remet.
Oui, c'était une chance inouïe en fait, parce que j'avais à EDF, donc comme je m'ennuyais un peu certains jours, enfin certaines semaines et certains mois. J'avais commencé à traduire des nouvelles, en particulier des nouvelles d'Alexandre Green, un grand auteur des années 20, un auteur surréaliste d'ailleurs, un des deux auteurs surréalistes que je connais, qui Alexandre Green et il y a Andrei Kourkov. Hein. Et je cherchais à caser ces nouvelles à des éditeurs, donc j'avais écrit à des tas d'éditeurs différents qui évidemment ne répondaient pas. Et j'avais envoyé entre autres à Actes Sud, et comme j'étais jeune et sans inhibition, j'appelais tous les jours pour savoir s'ils avaient enfin lu. Et pour éviter ces appels quotidiens, ils ont décidé de me faire venir rue Séguier. J'étais reçu par une dame charmante qui m'expliquait que ça ne leur plaisait pas. Enfin, que ce n'était pas dans leur ligne éditoriale, c'est ce qu'on dit toujours. Et là, il y a Michel Parfenoff qui passait et qui, justement, avait besoin d'un traducteur. Et Marie-Catherine Vacher, qui me recevait, s'est trouvée obligée de me présenter. Et Michel s'est senti obligé de me faire un essai. Et voilà, et ça a commencé comme ça.
Le début d'une aventure. Bien
que la première traduction que j'ai publiée, c'était un inédit de Bulgakov, ce qui était vraiment inespéré, effectivement.
Une belle aventure. Alors, il y a une aventure que je voudrais que vous nous racontiez, parce que vous l'avez partagée intimement et de près. C'est celle qui concerne le journal de Maïdan. Je l'ai cité dans votre bibliographie, Andrei Kourkov. C'est un exercice d'écriture un peu particulier, puisque vous avez écrit en direct. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette expérience du journal de Maïdan?
Ah oui, 2013, en octobre, j'écrivais une collection des essais sur l'Ukraine, pour une maison d'édition autrichienne, Heimann Verlag, pour montrer la différence entre la Russie et l'Ukraine, la mentalité ukrainienne, la mentalité russe et tout ça. Et quand Maïdan commençait, je m'arrêtais et j'ai compris que je ne peux pas continuer. Et j'ai téléphoné à mon éditeur à Innsbruck et lui dit que, en fait, à partir de l'âge de 15 ans, j'écris le journal privé. Sur ma vie, sur
mes amis.
Oui, intime, le journal intime. Et je lui dis, peut-être c'est mieux maintenant, parce que je ne sais pas comment les développements...
Les événements.
Oui, les événements vont développer. Je vais écrire le journal, en tout cas. Si vous voulez, je peux faire plus d'informations politiques, sociales, tout ce qui se passe. Et vous envoyerez chaque jour. Et comme ça, on va... publier le journal, mais pas une collection des essais. Et les essais qui sont déjà écrits, on peut les ajouter comme explication à index du livre. Il était d'accord et j'ai commencé le travail. Et chaque nuit, j'ai envoyé par email la description du jour précédent à mon éditeur, d'abord à mon traducteur à Berlin. Mais quand je parlais avec ma éditrice à Paris, elle avait intérêt aussi de faire ce livre. Et on a décidé de faire la même chose. Et j'ai envoyé chaque nuit la page ou le journal pour le jour à Paul et à mon éditeur allemand. Et c'est très intéressant parce que l'édition française était avant l'édition allemandophone, autrichienne.
Paul a été plus rapide que le traducteur allemand. Racontez-nous cette expérience. Parce que donc, vous suivez ces événements sur place en Ukraine, place Maïdan, près de
oui,
laquelle vous vivez.
Une autre chose, je ne pouvais pas changer ce que j'écris après, parce que
c'était envoyé déjà.
Si on change, c'est pas le journal.
C'est ça. Donc c'était un journal quotidien des événements, donc des émeutes sur la place Maïdan, des révoltes. Et donc Paul Le Ken, depuis Arles, je crois, où vous êtes allé vous installer au CITL pour travailler, vous avez fait un exercice de traduction simultanée écrite.
Oui, presque. C'est les 19 jours les plus passionnants de ma vie, en fait, je pense. Enfin, c'est une expérience extraordinaire, parce qu'effectivement, j'étais au Collège international de traduction à Arles, et dans la chambre la plus grande en plus, qui donne sur le jardin de l'Hôtel Dieu. Et donc, chaque jour, je recevais... Alors d'abord, il a fallu que je rattrape le temps, puisqu'il y avait déjà une partie du journal qui avait été traduit. Donc, j'ai essayé de traduire ça le plus vite possible pour être dans l'actualité, vraiment. Et après, chaque jour, je recevais le texte d'Andrei, et je le traduisais dans la journée. Donc je commençais à 9h du matin, je finissais à 4h du matin. Et ce qui était bien, il y avait un traducteur... Slovaque qui était là, qui avait un peu les mêmes horaires que moi, donc vers 2-3 heures, on se faisait la cuisine, tous les deux, et c'était magnifique. J'envoyais le texte à Sandrine, chez Liana Lévy, qui, elle, le composait, le relisait, me le renvoyait. Moi, j'envoyais les textes à ma femme, qui les lisait de son côté pour corriger les fautes. Et au bout du compte, voilà, au bout du compte, au 19e jour, j'avais traduit 275 pages à peu près, et le livre était fait.
Il a pu paraître dans les jours qui ont suivi les événements, le 20 mai, voilà. Donc tout de suite après. Donc c'était vraiment un projet en direct mené à différents endroits de la géographie européenne pour que ce récit à chaud puisse être disponible tout de suite pour les lecteurs. Donc une aventure qui vous a rassemblé déjà à ce moment-là. Paul, un petit mot sur le statut d'un traducteur de russe, évidemment, aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre de ce métier-là? Est-ce que vous continuez à avoir d'autres activités pour compléter? Ou est-ce que le métier de traducteur, aujourd'hui, est un métier dont on peut
vivre? Je ne suis pas sûr que traducteur soit un métier, en fait. Dans le sens que... c'est difficile d'en vivre, tout de même. Enfin, c'est difficile d'en vivre quand on a une famille et des enfants. Ou alors, il faut faire ça, que ça toute la journée... 30 jours par mois. Et... Donc, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un métier. D'ailleurs, on le voit, parce que 80% des traducteurs sont des traductrices. Et donc ça, c'est un indice.
Vous voulez créer quoi comme polémique là sur une place de l'Hôtel de Ville exclusivement féminine?
Je le regrette infiniment, parce que c'est vraiment un indice de quelque chose qui a de profond à la société. On l'observe aussi chez les médecins actuellement, chez les chercheurs, donc chez les enseignants. Tous les métiers qui sont les moins bien payés sont bizarrement dévolus ou repris par les femmes. Pour moi, c'est un fait et qu'on ne peut que déplorer, évidemment. Ce qu'on peut déplorer, c'est que... Voilà. Oui, je pense que quand même, en tant que traducteur, on arrive à s'en sortir. Je fais des choses à côté, je fais des lectures, je fais de la correction aussi un peu. Et puis, je traduis des textes pour des journaux. Et puis, il m'est arrivé de donner des petits cours de maths pour les fins de mois ou des... Voilà, plein de métiers qui permettent de voir autre chose aussi. Donc ça, c'est intéressant.
Oui, parce que rester
à traduire toute la journée chez soi, c'est horrible. Enfin, il faut voir le monde aussi comme pour un écrivain. Viktor Shklovsky, l'auteur de Zoo, disait que pour être écrivain, il faut avoir un autre métier, parce que sinon, on n'a rien à dire.
Pour rester connecté aussi.
Avoir un autre métier ou avoir eu d'autres métiers, évidemment. Et pour être traducteur, c'est pareil. Il faut avoir vu un peu le monde, d'autres choses, avoir vu comment fonctionnaient des machines, comment on cultive les champs, tout ça. Parce qu'on a à le traduire tôt ou tard.
Oui, il y a des champs très, 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 très variés, voilà. Et très différents que vous avez amené à explorer. 6 livres traduits maintenant d'Andrei Kourkov. Vous avez donc collaboré sur plusieurs titres. Comment se passe justement votre travail entre tous les deux quand il y a une traduction qui est engagée, puisqu'Andrei, vous maîtrisez le français. Est-ce que vous êtes... très autonome, Paul, dans votre travail de traduction dans un premier temps, pour ensuite soumettre à Andrei Kourkov une lecture? Ou est-ce que le travail se fait à deux tout au long de la traduction?
Non, il ne s'est fait à deux que pour le journal de Maïdan, où là, j'avais besoin souvent d'éclaircir certains points. Il y a beaucoup, je passais mon temps sur Internet pour retrouver les événements décrits par Andrei sur les journaux, notamment pour savoir qui était qui. Parfois, c'était important juste pour traduire, savoir si c'était un professeur, un instituteur, par exemple, juste se faire ce choix-là. Sinon, j'essaie d'être le plus autonome possible pour ne pas déranger Andrei avec mes questions. Parce que j'ai toujours cette idée du traducteur japonais dans un roman de David Lodge, je crois, qui poursuit l'auteur constamment, qui en fait ne comprend rien, et passe son temps à écrire à l'auteur pour lui demander ce que veut dire telle chose et telle chose. Et en fait, c'est l'auteur qui finit par traduire lui-même le livre pour son traducteur. Voilà, donc j'essaye de ne pas être celui-là.
André, est-ce que vous avez lu la version française de votre roman? Ou au moins par petit...
Pas tout, mais j'ai lu beaucoup des extraits, oui. Et je suis très content, mais en fait, j'ai confiance à Paul parce que ce n'est pas le premier livre, comme vous avez dit. Et parfois, il m'a envoyé des questions ou des propositions, mais on a discuté beaucoup sur les coupures. Et en fait, Paul a défendu des épisodes qui, Sandrine, pensait qu'on peut enlever, on peut... coupé.
C'est-à-dire que par rapport à la version russe originale, il y a des passages qui ont été supprimés par rapport à la version française.
Oui, il y a eu un travail d'édition supplémentaire qui a été fait pour que le livre ait un coût raisonnable.
Coût raisonnable, d'accord.
Je pense que c'est surtout ça. Et donc, le travail qui a été fait de réédition a coûté aussi cher que si on avait tout traduit. Ce n'était pas vraiment une question d'argent, mais plutôt de rendre le livre plus accessible aux lecteurs français. Et on n'a pas fait de grosses coupures. On a enlevé une phrase par-ci, une phrase par-là, mais qui, au bout du compte, permettait de faire une économie de volume. Mais certains épisodes, par exemple, pouvaient paraître inutiles. Et pour moi, en fait, je disais que c'était impossible de les enlever. Là, par exemple, dans un des premiers chapitres, un des personnages principaux rentre dans un café. Et là, il y a une consommatrice une cliente qui a des gants bleus. Et les gants bleus sont évidemment les gants de l'héroïne du concert posthume de Jimi Hendrix. Donc je ne pouvais pas les enlever, sinon parce que c'est un clin d'œil quand même au lecteur.
Au précédent roman. André, vous disiez, avant que nous montions sur scène, qu'à l'origine, votre roman était encore plus volumineux. Il faisait presque un millier de pages.
Oui, 1000 pages. C'était la première version après la fin. Mais je pensais que c'est trop. Et j'ai aussi me sentais coupable parce que c'est très cher, bien sûr, à éditer. J'ai pensé des lecteurs qui peut-être veulent lire plus de livres qu'il y a un grand volume.
Plusieurs livres et pas un seul.
J'ai coupé moi-même 150 pages. Et dans cette version, le livre était imprimé en russe et en ukrainien.
Donc du coup, il a été...
Et dans la version française, il n'y a pas beaucoup de coupures. Et c'est vraiment... J'ai relu quelques fois, chaque fois, quand on a discuté, est-ce qu'on peut enlever cette phrase et cette phrase. Et ça
a été tout validé.
Ça a été bien.
Vous étiez bien. Vous avez un regard sur l'écriture russe, évidemment, d'Andrei Kourkov, puisque c'est votre texte source. Quelles sont les caractéristiques dans ce russe qu'il écrit, lui, Andrei Kourkov, et quelles sont peut-être les difficultés qui reviennent ou qui se posent à vous? Comment vous définiriez son écriture russe?
C'est très particulier. Il y a une écriture kourkovienne, qu'on reconnaît très bien, qui alterne des passages qui sont très, très lyriques. Hein. Notamment, Andrei a une tendance à la prosopopée. À rendre vivant la nature. Donc le soleil, les nuages sont animés d'intentions. Les arbres, même la forêt, quand il neige, c'est parce qu'on doit recouvrir la forêt. Les nuages sont chargés d'une mission, par exemple. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Et puis, ça alterne aussi avec des passages descriptifs très courts, avec des phrases très courtes, parfois sans sujet. Où il y a juste le verbe. Alors en russe, on peut se passer du sujet, mais j'essaye de rendre ça en français aussi. Donc il y a des phrases pourraient être reliées en un tout, mais elles ne le sont pas parce que c'est une vision très cinématographique. Il y a beaucoup de regards dans les descriptions. Les personnages regardent autour d'eux, ils fixent tel point, ils sont attirés par tel détail, et on voit vraiment petite expérience, enfin une grosse expérience de caméraman peut-être et de scénariste. Et c'est très visuel, voilà, c'est une prose très visuelle.
Il y a des scènes qui sont très imagées et auxquelles on assiste. Vilnius, Paris, Londres, c'est le titre français. Est-ce que c'est le même titre en russe?
Non.
C'est quoi votre titre russe?
C'est l'histoire schengenienne ou l'histoire des Schengen, mais le titre allemand... C'est cartographie de Freiheit, la cartographie de liberté.
D'accord. Oui. Donc, du coup,
Et je pense qu'il y aura des autres titres aussi.
D'autres titres qui se déclinent. Alors, pour le présenter à vous, lecteurs, qui peut-être ne l'avaient pas encore tous eu le plaisir de lire ce très, très beau roman, Vilnius, Paris, Londres dessine une géographie entre ces trois capitales, donc entre la Lituanie, la France et la Grande-Bretagne. On y rencontre trois couples dans ce roman qui, le soir du 21 décembre 2007, célèbrent l'entrée de leur pays, la Lituanie, au sein de l'espace Schengen. Cette liberté de circulation qui s'offre à eux d'un coup crée une sorte d'appel d'air et un vent de liberté. Et ils ont tous les trois, ces trois couples, très envie d'aller s'expatrier et de travailler à l'étranger pour une nouvelle aventure. Andrius et Barbara s'installeront à Paris. Ingridia et Claudius, on prononce comme ça, vont travailler à Londres. Renata et Vitas, eux, rêvent d'aller en Italie, mais la présence du grand-père de Renata les retient encore un moment en Lituanie. Et puis, il y a un quatrième personnage, donc il y a ces trois couples qui sont attirés par l'Europe. Et puis, il y a un quatrième personnage, Koukoutis, qui, lui, attend de pied ferme, je mesure mon expression, à la frontière pour être le premier à passer la frontière. Et il décide, lui, de partir à pied, en voiture, en stop, en calèche, sur les routes d'Europe. Donc on a ce quatrième personnage. Ce personnage a une jambe de bois et il a cette ambition-là d'aller à l'aventure sur les routes d'Europe. 117 chapitres, un épilogue et quatre itinéraires qui dessinent l'Europe d'aujourd'hui, sa liberté, la liberté qu'elle offre, mais aussi les limites, les rencontres, les espoirs, les déceptions auxquelles se confronteront du coup tous ces personnages. Vous habitez à Kiev en Ukraine, vous écrivez en russe, on a vu toutes les langues que vous possédiez. Pourquoi est-ce que la Lituanie s'est imposée comme décor, ou en tout cas décor source de votre roman ?
Oui, j'ai déjà écrit Sophie des livres sur l'Ukraine. Je plaisante bien sûr parce que le dernier roman après ça, c'est un roman ukrainien. Mais je suis fasciné par la Lituanie à partir de 2004. Mais à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à écrire poésie et jusqu'à l'âge de 24 ans. Et j'adorais la poésie des poètes morts, plutôt des poètes russes des débuts du XXe siècle, comme Akhmatova, Mandelstam, Tsvetaev. Et un jour, dans une librairie, j'ai acheté une collection de poèmes par un Lituanien, Marcelius Martinaitis. C'était les chansons le titre était les chansons de Koukoutis. Et j'ai tombé amoureux du personnage et de ses poèmes. Et tout de suite, j'ai décidé que le poète doit être mort parce que j'aime ses poèmes. Et j'ai fait des études dans l'école musicale, j'ai joué le piano, j'ai commencé de composer les chansons, les musiques pour les poèmes sur Koukoutis. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à 2004, quand mon ami, l'ambassadeur de Lituanie à Kiev, a acheté un piano pour l'ambassade et m'a invité de fêter cette chose avec whisky. Et j'ai pensé qu'il faut faire quelque chose de sympa pour lui. Et j'ai lui dit que je peux te chanter quelques chansons sur les poèmes d'un poète lituanien qui est déjà mort, mais c'est un poète très, très intéressant, Marcelius Martinaitis. Et il était surpris, il a dit, mais il est en vie, c'est mon ami, on peut lui appeler. Et comme ça, j'ai chanté les chansons en utilisant le portable d'ambassadeur, pas micro, et Marcelius Martinaitis, qui avait 80 ans, avec sa femme Jadwiga, attendait mes chansons près de Vilnius. Et j'étais en contact par téléphone presque 10 ans avec lui. Et chaque fois que je suis allé à Lituanie, j'ai essayé de lui rencontrer, mais il était parfois malade, parfois à l'étranger. Et à un moment, peut-être à 2010, j'ai commencé à penser que je veux écrire un roman sur Lituanie, parce que c'est un petit pays avec une grande histoire. C'était le plus grand État en Europe au 13e, 14e siècle. C'était le royaume lituanien. C'est les gens avec une mentalité très différente des Européennes et des Slaves. Je peux vous donner un exemple un peu plus tard. Et une autre chose, c'est une langue lituanienne que j'essaie maintenant à apprendre. une langue magique avec grammaire latin et avec vocabulaire détaché de toutes les langues des pays voisins. Très intéressant. Et quand je pensais sur quoi je dois écrire, bien sûr, je savais déjà que 30% des populations de Lituanie sont émigré avant Lituanie devenue le membre de zone Schengen. Et c'était le drame numéro un, bien sûr. L'autre chose, les Lituaniens étaient toujours fâchés avec l'Europe, mais fâchés sans agression parce que l'Europe a oublier l'histoire lituanienne, l'influence lituanienne en Europe. Et je pensais qu'il faut raconter l'histoire des Lituaniens, expliquer Lituanie à Europe. Et bien sûr, et je pensais que j'ai besoin d'un personnage comme Kukutis. Kukutis, c'est quelque chose comme le juif éternel. C'est un Lituanien qui se souvient tous les événements en Europe pendant les derniers 300 ans. Il traversait l'Europe avant la guerre première mondiale, après la guerre première mondiale. Pour lui, l'Europe était toujours sans frontières, mais il apportait toujours 6 passeports différents.
Sur lui, dans sa jambe, dans un des tiroirs de sa jambe de bois.
Oui, et je demandais à Marcellus Martinakis si je peux prendre le personnage de ses poèmes, inventer une mission pour lui, mais utiliser la biographie poétique de Kukutis de ses poèmes. Il m'a donné autorisation et quelques mois après, en 2015, il est mort. Et c'est seulement après sa mort, j'ai rencontré sa femme et elle m'a ramené dans la petite maison où ils ont habité les dernières 30 ans. Et elle m'a dit, c'est les chaussons de Marcellus, c'est le lit, je n'ai pas changé rien, je n'ai pas touché rien. Après, il était ramené à l'hôpital. Si tu veux passer une nuit dans ce lit, et tu peux prendre, je peux te laisser dans la maison. J'ai dit, je ne suis pas prêt parce que le roman n'est pas fini. Mais comme ça, nous sommes maintenant les amis et la veuve était presque la première lectrice du roman.
Du coup, c'est le personnage revient à elle en quelque sorte. Alors, il y a quelques phrases sur la Lituanie, justement, que je voulais vous lire pour faire écho aux propos d'Andrei Gourkov. Petite elle était restée. Même si dans l'ancien temps, des siècles plus tôt, le grand-duché de Lituanie avait été le plus grand royaume d'Europe, englobant d'ailleurs toutes les terres de Prusse. Les peuples d'Europe s'y trouvaient à leur aise dans ce grand-duché, aussi bien les Polonais que les Prussiens et tous les petits peuples qui ne s'étaient pas encore inventés de nom. On l'a vous rappelé l'histoire de la Russie, parce qu'un peu plus tard, un des personnages, Michel, qui est l'ami de François, qui est libraire et qui accueille l'un des couples à Paris, dit « Mais moi, je ne sais rien de la Lituanie, à part que vous étiez avec la Russie autrefois, je veux dire dans l'Union soviétique. » Donc il y a une méconnaissance des personnages de la Lituanie et ils arrivent un peu ambassadeurs, évidemment, de leur pays. On peut s'arrêter sur ce personnage de Kukutis, qui est évidemment totalement irrésistible dans ce roman. Moi, il m'a fait penser à une sorte de sage. Il a ces phrases de sagesse, un peu naïves, mais très profondes à la fois. Une sorte de, à la fois un peu Nasreddin Hoca, peut-être un équivalent dans la culture turque musulmane, ou bien une sorte de Don Quichotte, Sancho Panza, qui se balade comme ça et qui porte leur regard sur le monde. Il dit, par exemple, à un moment donné, ce Kukutis, « Je me demande à quelle distance du Rhin les Français cessent de comprendre l'allemand. » Et moi, c'est des phrases sur lesquelles je m'arrête et je me dis, mais j'ai jamais pensé à ça, moi. Je trouve ça, et il est plein de ces sagesses-là. Alors justement, s'arrêter sur ce personnage, on a compris qu'il était donc tiré de ces poèmes que vous aimiez beaucoup. Il a une jambe de bois qui est un peu particulière puisqu'elle est pleine de tiroirs. Et dans ces tiroirs, c'est comme sa valise, il part finalement les mains dans les poches, mais dans ces tiroirs, il y a une flasque d'alcool, il y a des passeports, il y a un couteau suisse, il y a tout ce dont il a besoin. De la monnaie. Voilà, il y a tout ce dont il a besoin. Comment est-ce que vous avez imaginé ces tiroirs et surtout, quel équilibre il apporte à votre texte, cet homme qui finalement marche avec une jambe de bois?
Non, il est très important pour le sujet. Je dois dire qu'en fait, ma mère et ma grand-mère étaient médecins. Et comme ça, il y a beaucoup de petits détails qui sont peut-être les fantasmes médicaux, oui. Et j'ai inventé, comme j'ai dit, une mission pour Kukutis. Il essaye de sauver les Lituaniens qui se trouvent dans les circonstances tragiques ou dramatiques. Et il a un cœur, un peu avec GPS, parce que quand il sent mal ici, dans le corps, ils comprennent que c'est la France. Et ici, c'est Angleterre. Ici, c'est Pologne.
Il a une sorte de cœur map-monde ou de cœur planisphère. C'est l'une des très belles inventions du roman. Et donc, effectivement, solidaire de ses compatriotes lituaniens qui se sont expatriés, il sent à l'endroit de son cœur qui représente le globe où se trouvent des Lituaniens en souffrance.
Oui, et avec des tiroirs. Oui, je pensais, bien sûr, il n'avait pas des tiroirs dans les poèmes, c'était seulement...
D'accord, c'est vous qui les avez créés,
oui, c'est moi
ces tiroirs.
Oui, c'est moi qui ai créé cette jambe de bois. Mais je pensais que, comme il voyage si facilement en Europe, il ne peut pas voyager avec des valises, avec quelque chose, spécialement avec une jambe en bois. Et je pensais, bien sûr, il doit avoir les choses nécessaires. Et où on peut les cacher, ou bien sûr dans l'espace des jambes de bois.
Donc du coup, voilà, c'est plein de tiroirs. Il y a un autre tiroir qui va jouer un rôle très très important dans le roman à la fin, mais je ne le dévoilerai pas celui-ci, je ne l'ouvrirai pas pour vous. Mais pour continuer sur ce personnage de Kukutis, il est porteur d'une sagesse, je le disais, et d'un humour qui sous-tend tout le roman. Et c'est le sujet que je voudrais aborder, parce que la traduction de l'humour, c'est quand même quelque chose de bien particulier. Pour vous donner un petit goût de cet humour-là, je vous lis deux scènes. On est au début du roman et Kukutis donc est parti en stop. Et un cocher s'arrête pour le faire monter à bord de son chariot. « Où vas-tu ? » demanda le cocher. « Tout droit, » répondit Kukutis, « à Paris. » L'autre tourna la tête, un léger sourire s'esquissa sur ses lèvres. « Mais c'est loin, bien plus loin que Varsovie, que vas-tu faire là-bas ? » « Je vais à un enterrement. » « Mais tu arriveras trop tard. » « Non, il n'est pas encore mort. » « Mais qui ça ? » ?»« Bah, le défunt. Le défunt est encore en vie. » C'est la première scène que j'aime beaucoup. Et on va s'attarder sur ce sujet-là. On va y revenir, pardon, parce qu'il y a ce décalage dans la mort qui revient plusieurs fois dans votre travail. Un peu plus loin, une autre scène que je vous lis, il est avec Elzbieta. Et il y a un échange entre les deux personnages. Donc c'est Elzbieta qui commence, qui est l'une des femmes qui l'héberge dans son périple. « J'ai lu dans le journal, dit Elzbieta après un nouveau silence, que les hommes mariés vivaient plus longtemps que ceux qui ne le sont pas. » Oui, et il en meurt moins également, s'empressa de confirmer Kukutis. Il passe plus rarement sous un train ou sous une voiture. Il se noie aussi moins souvent. Peut-être que si je m'étais mariée à temps, je frapperais aujourd'hui la terre de mes deux jambes au lieu de clopiner avec une prothèse en bois. Mais la sagesse nous vient trop tard. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée ? S'enquit Elzbieta d'un nom plus hardi. Kukutis avala une gorgée de thé en admirant les roses rouges et noires du gilet que la femme avait à l'évidence vêtu en son honneur. La jupe d'Elzbieta était plus courte ce matin-là, juste au-dessus du genou, mais était noire encore et devait tenir chaud. « Je me serais mariée si le père de ma fiancée ne s'y était pas opposé, » répondit-il avec un soupir. C'était il y a longtemps. Il se tourna vers la fenêtre et s'absorba dans la contemplation de la neige tombant, tel un épais duvet blanc. Il resta ainsi si concentré qu'il en oublia ce qu'il regardait. Ce qui est blanc, même si ça vole de haut en bas. « Comment s'appelait-il donc ? » murmura-t-il. « Qui ça ?» Le meunier, le père de Ramouté, ma fiancée. Elle était belle ? Très. Des yeux verts, un petit nez très fin, comme le museau d'un bébé renard. Svelte ? Kukutis secoua la tête de gauche à droite. Bossu. Lasse de ne voir que le profil de son hôte toujours captivé, semblait-il, par le spectacle de la neige, Elzbieta tourna la tête elle aussi vers le carreau. Kukutis, au contraire, se prit à la dévisager. Leurs yeux se rencontrèrent et il eut l'impression de revoir ceux de Ramouté. « Et le père a refusé de vous donner sa fille bossue ?» La voix d'Elzbieta trahissait un sincère étonnement. « Oui, » Kukutis soupira. « Il a refusé de donner une bossue à un udijambiste. Il pensait que je voulais l'épouser à cause du moulin. Il pensait aussi que je ne pourrais jamais mettre la main à la besogne, que je n'étais pas en état de porter les sacs de farine ni de monter réparer les ailes. C'est ainsi que le bonheur nous a échappé. Vous le regrettez ? Comment ne pas le regretter ?» Voilà, cette scène très tendre qui vous donne à la fois la sagesse et la poésie et l'humour porté par Koukoutis. Paul Le Ken, quand on a affaire à un humour, évidemment, l'humour est très culturel, très ancré dans une langue, dans des références. Le livre d'André Gourcoff en est plein. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que finalement l'humour qu'André Gourcoff pratique était assez fluide à transposer dans notre langue française ?
Je ne me rappelle pas. Donc, je pense que ça n'a pas posé de difficultés particulières.
Vous en rappelleriez si ça avait posé problème, a priori.
Non, ce qui est compliqué, quand on traduit, c'est de rendre la simplicité en fait, du discours, de faire que ça soit évident. La structure de la phrase russe met en relief certains mots. Par exemple, à la fin de la phrase, on va mettre les mots importants. Ou au début, ça va... Et en français, il va falloir les... La syntaxe est plus rigide et c'est des genres de difficultés techniques comme ça qui vont faire que il faut garder la surprise du mot qui fait rire et en même temps le mettre au bon endroit pour le français. Donc parfois on est obligé de jouer un peu avec ça.
C'est plutôt cet ordre-là. Il n'y a pas eu de difficultés liées à l'humour particulier. Est-ce qu'il y a des références qui ont été du coup abandonnées ou qui ne fonctionnaient pas en français? Est-ce que vous avez ce souvenir-là dans
non.
les phrases qui ont été coupées? Non. Tout ça, non, ça a non. pu être
Et puis,
maintenu.
Non. Si c'était arrivé, je serais appliqué à l'adapter, en fait. Mais je n'ai pas souvenir pour ce livre-là. Non.
Est-ce que dans d'autres, d'André Gourcoff, ça s'est produit?
Je ne me rappelle pas, franchement.
et dans d'autres, ça vous arrive évidemment.
Oui, bien sûr, ça m'arrive.
Confronté à ce problème.
Oui, le champ de changer les jeux de mots. Je me souviens que pour un livre de Shklovski, par exemple, qui s'appelle Technique du métier d'écrivain, il était question de virelangue. Donc j'avais été obligé d'en inventer à la place de ceux qui le présentaient comme exemple. Voilà.
Le livre, du coup, dessine une géographie européenne, donc les personnages sont confrontés à d'autres langues que les leurs, principalement le lituanien pour les personnages. Donc on a des phrases en allemand, en polonais, en lituanien aussi parfois. Certaines sont traduites en notes de pas de page, d'autres pas, d'autres sont laissées telles quelles, les plupart sont traduites.
Je crois qu'elles sont toutes traduites, normalement.
Oui, à peu près, il y a quelques petits mots qui sont... Mais du coup, voilà, est-ce que c'était dans la version originale, est-ce que les langues étrangères étaient laissées telles quelles ou est-ce qu'elles étaient elles aussi traduites en notes de bas de page ou bien est-ce que c'est un choix de la version française?
Non, dans la version russe-ukrainienne, les langues étrangères sont écrites comme en latin, orthographiquement correctes pour la langue.
D'accord, parce que
avec traduction en bas.
L'alphabet lituanien, l'alphabet russe, pardon, évidemment, est différent d'une autre. Donc, du coup, ça faisait deux alphabets différents.
Oui.
C'était ça.
Oui.
OK. Je voudrais revenir sur le point que vous avez rapidement évoqué, avec cette mort différée, c'est-à-dire que Koukoutis part pour un enterrement, mais la personne n'est pas encore morte. Et il me semble que c'est quelque chose qui est assez présent, et notamment dans L'ami du défunt, un autre de vos romans, où votre personnage, qui est dépressif, qui est abandonné par sa femme, qui part avec un autre homme, fait appel à un tueur à gages, parce qu'il n'a pas le courage de se suicider, pour que ce tueur à gages le tue. Et finalement, il renonce, il change d'idée, et donc évidemment, la course s'enclenche, parce qu'il faut empêcher le projet qui est malheureusement en cours. Et là, il y a aussi cette mort en différé, cette mort en décalé, comme si la mort n'arrivait pas là, mais parfois il y avait un temps de latence entre les deux. Est-ce que c'est un motif qui est présent dans votre vie et du coup dans votre vie
d'écrivain? Parfois, mais pas dans tous les livres.
Pas dans tous les romans.
Non, non,
mais
non,
c'est pas un motif qui revient plus que ça.
Dans lequel c'est pas présent alors hein?
Dans quoi?
Parce que moi, au contraire, j'ai l'impression que oui, effectivement.
Alors, peut-être que le traducteur a un autre regard.
Mais j'adore l'humour noir, et l'humour noir toujours connecté avec la mort. Et c'est-à-dire que je crois aussi que le pingouin est devenu si aimé parce qu'il s'agit des choses très dramatiques, mais avec ironie, avec détachement, avec humour. Oui.
Alors, vous êtes réputé, vous voulez ajouter quelque chose, Paul?
Oui, le pingouin, c'est comme une histoire de mort annoncée au début.
Oui, oui, oui.
Et ça me bien qu'il y avait quand même quelque chose d'assez récurrent.
Et ici récurrent. Aussi, il y a plusieurs morts annoncées, même si ce n'est pas explicitement. On sait qu'il y a un enfant, on sait qu'il ne va pas survivre, on sait que le personnage d'Andrius, il est menacé. Voilà, donc on sait qu'il y a cette menace constante de cette mort qui est parfois produite par des faits très anciens dont Koukoutis porte la mémoire, et notamment de cette Première Guerre mondiale, qui, pour André, André disait que la Seconde Guerre mondiale a été terminée, mais que la Première Guerre mondiale, elle continue à faire sentir ses effets, notamment pour tout ce qui est le partage territorial de l'Empire austro-hongrois. Austro-hongrois continue à se faire entendre, en fait, dans les relations internationales, dans la vision qu'ont les peuples les uns des autres, hein. Et même les vestiges de la guerre. Voilà, il y a encore des bombes qui explosent dans des champs.
Continue d'exploser, voilà. Oui. Il y a des restes d'obus qui parfois rappellent que l'événement est encore bien présent.
Et je voulais dire aussi que je m'étais amusé à faire une lecture psychanalytique du livre, parce qu'il y a beaucoup à dire de cette jambe de bois, bien sûr, qui n'empêche pas Coucoutis de marcher, au contraire. C'est plutôt elle qui l'entraîne. Et c'est cette jambe qui est tendue et qui est pleine de tiroirs secrets.
Non seulement, et elle lui a même sauvé la vie, puisqu'elle a sauvé la vie de la noyade.
Donc cette jambe, c'est un peu quand même on voit bien que c'est le sexe du père, symbolique, et qui est plein de tiroirs secrets, qui est un peu les gènes, en fait, du peuple, en fait, lituanien, qui le trimballe avec lui. Hein. Voilà, enfin, je vois ça comme ça. Et à la fin, le Christ se retrouve aussi avec une jambe de bois. Hein, dans le...
Donc elle est quand même bien présente.
Je veux ajouter qu'en fait, aussi une raison pourquoi la mort présente comme ça dans mes romans, parce que je suis un optimiste noir. Et l'optimiste noir est sûr que tout sera bien, mais il n'est pas sûr qu'il va survivre jusqu'au moment quand tout sera bien.
Pierre parlait d'optimisme fatal.
Oui, c'est une belle expression, l'optimisme fatal, on la retient. Vous êtes connu pour vos fables animalières, évidemment le pingouin, le caméléon parmi vos titres vous ont fait repérer comme l'écrivain qui passe par le truchement de la figure animale pour dénoncer certaines choses et avoir des ouvrages un peu décalés. Dans ce livre-là aussi, les animaux sont présents, notamment à travers les petits métiers que trouvent les personnages. Barbara, elle est dog-sitter le matin à Paris, elle s'occupe d'un chien tous les matins qu'elle va balader, elle est nounou d'un bébé l'après-midi qui va l'entraîner dans des aventures un peu compliquées, mais elle s'occupe d'un chien le matin. Claudius et Ingrida, eux, construisent des cages à lapins en Angleterre, donc un métier quand même extrêmement répandu. Et Vitas et Renata, de leur côté, ouvrent une entreprise de teinture d'animaux domestiques. Si, Monsieur Kourkov peut inventer ça. Qu'est-ce que c'est que la teinture d'animal domestique, Monsieur Kourkov? Où est-ce que vous êtes allé chercher ce sujet?
Si vous êtes à la mode, vous avez acheté une voiture rouge et vous avez un chien blanc, on peut trouver la peinture, la même peinture que la voiture pour votre chien. Et comme ça, il y aura harmonie. Si vous changez la voiture, on peut changer la couleur des chats, des chiens.
Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces métiers-là, justement, de vos personnages? Où est-ce que vous aviez envie? Est-ce que c'est simplement le plaisir de vous amuser, d'en faire des farces un peu burlesques? Ou est-ce que derrière, vous aviez envie de dire, ils sont obligés d'avoir recours à des petits métiers un peu farfelus pour s'en sortir, parce que c'est quand même pas si simple non plus l'aventure européenne?
Non, parce que dans les pays, on peut dire, jeunes européennes et aussi en Ukraine, on parle chaque jour des start-up. Il faut commencer le business, il faut inventer quelque chose avec quoi on peut gagner l'argent. Et ces personnages, ils inventent cette entreprise parce que c'est la seule possibilité de rester, vivre dans la campagne lituanienne et avoir le boulot.
Des formations aussi, il fait des stages.
Ah oui, il fait des stages de teinture animale, il se renseigne, il débauche une coiffeuse dans son salon de coiffure pour qu'elle lui apprenne la technique. Non, c'est très 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 sérieusement raconté. Hein. Un lapin, le lapin blanc pour ne plus le perdre dans la neige, hop, une petite teinture et c'est réglé. Voilà, non, tout est à point, tout est vraiment très très bien pensé. Je voudrais revenir parce que c'est une des images qui m'a le plus marquée, qui m'a le plus touchée, qui est très poétique, sur ce cœur planisphère qu'on évoquait tout à l'heure, ce cœur map-monde de Coucoutis qui le guide. Là aussi, où est-ce que vous avez trouvé cette image très très belle du cœur planisphère? Est-ce que c'est un conte, une légende qui vous est restée présente, ou est-ce que c'est une pure invention pour ce roman?
On peut dire que c'est une invention pour, mais on pense toujours que les mères sentent avec le cœur si quelque chose se passe avec des enfants loin des maisons. Et comme ça, je pense qu'on peut peut-être aussi sentir où ils sont s'ils ils voyagent et il y a des problèmes.
Donc c'est ce lien très, très maternel et très...
fraternel, en tout cas,
les liens de sang pour les gens de ce peuple-là. Une question sur la construction de ce roman. Je vous l'ai dit, donc il y a trois couples qui vivent leurs aventures européennes ou qui restent à Vilnius. Ce personnage de Koukoutis que l'on suit, qui est absolument délicieux. Mais tout ça dans une construction d'une habileté. J'aimerais comprendre comment vous avez pu tisser ces quatre histoires qui semblent partir d'un même point et s'écarter géographiquement, mais qui en fait sont toujours liées les unes aux autres. Les personnages se téléphonent, les personnages se souviennent, les personnages se visitent en rêve parfois, et vous tissez des liens entre toutes ces histoires pour retomber sur vos pattes à la fin, comme un chat que l'on lance en l'air, qu'on regarde faire ses acrobaties et qui retombe tout à fait stable. Comment est-ce que vous avez construit ça? Est-ce que vous aviez dans votre ordinateur ou sur votre bureau des fiches concernant chacun des personnages, des cartes que vous pointez? Comment, avec la mémoire, vous pouvez construire tout ça?
C'est tapisserie, oui, caviar.
Tapisserie?
Oui, un mélange entre tapisserie et jeu d'échecs. Parce que je garde l'histoire dans ma tête, mais si le roman est grand, après 200-300 pages, j'écris le plan des chapitres déjà écrits.
Donc c'est après coup?
Oui.
Après coup. Vous écrivez après, vous avez le plan. Mais vous n'avez pas de chronologie ou de fiche concernant... Vous retenez tout ce qui leur arrive
et... je sais, parfois, il y a une autre chose. Mon principe est continuer à écrire seulement si l'histoire... mais surpris aussi. Comme ça, j'ai les dons un peu de liberté, les personnages, mais je sais la fin, approximant, et je sais les routes.
La destination.
Les destinations, oui.
Paul, est-ce que vous vous souvenez de la première sensation que vous avez eue en lisant ce texte, quand vous l'avez reçu, ce volume-là, donc le roman a été achevé cette fois-ci? Quelle a été votre première impression? Est-ce que vous avez été extrêmement enthousiaste? Est-ce que vous avez tout de suite pointé les difficultés qu'il allait représenter?
J'ai eu le même sentiment. J'ai vu qu'il y avait un livre qui faisait 700 pages.
Comme moi.
J'ai dit, oh, non. Parce que je venais d'en traduire déjà trois qui étaient énormes et j'en avais marre. Et donc, je me suis dit, Andriy Kourkov a voulu faire son gros livre, comme tous les écrivains russes. Parce qu'il faut savoir qu'en Russie, existe un prix du gros livre.
Au poids.
Alors, c'est pas au poids, il faut quand même que le livre soit intéressant, mais pour être
mais
candidat...
En Ukraine, il n'y a pas de prix comme ça.
Pour être candidat, il faut avoir ces 800 pages, sinon voilà, on ne peut pas participer. On s'est dit, bon, ben, peut-être qu'en Ukraine aussi, ils ont ce sentiment. Et voilà, donc j'ai ouvert le livre et je ne l'ai pas lâché. Voilà, je disais non, c'est pas possible, je vais pas. Et en fait, si, c'était possible. Et au contraire, plus j'avançais dedans, plus. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'est ce personnage de Koukoutis, en fait, qui relance constamment, curieusement, qui extrait le lecteur des problèmes quotidiens, mais vraiment très quotidiens de ces trois couples d'émigrés, qui extrait le lecteur de ce monde et en même temps qui crée un lien entre tout ça. Parce que Koukoutis, finalement, parcourt ce qui fut le grand-duché de Lituanie, et puis un petit peu après, c'est lui qui fait parler, on entend parler, effectivement, on peut entendre parler polonais, allemand, lituanien, on sait comment dire tu es un idiot en lituanien, par exemple, ça peut toujours servir.
Vous allez l'apprendre.
Et ce personnage vraiment lit l'histoire et la propulse en avant, curieusement. C'est une unijambiste qui fait avancer l'histoire, d'une certaine manière. Et parce que sinon, autrement, les trois histoires devraient être en elles-mêmes très statiques, puisque qu'est-ce que c'est ces histoires? Ce sont des gens qui arrivent dans un pays étranger et qui s'installent. Et s'installer, s'intégrer, qu'est-ce que c'est? C'est acquérir des habitudes. Donc forcément, c'est lent, ça prend du temps. Et malgré tout, il leur arrive tellement de choses, et des petits détails, des petites aventures qui rendent tout passionnant parce qu'ils découvrent un autre monde aussi, une autre manière de raisonner, une manière de prendre la vie. En France, les gens qui prennent leur café au bar, par exemple, ça les épate. des petits détails comme ça. En Angleterre, ce qui est très drôle, c'est que les personnages, jusqu'à la fin du roman, ne rencontrent finalement...
Pas d'anglais.
Ils parlent d'anglais uniquement avec des Chinois, des Pakistanais, des Indiens. Et
quand ils pensent en rencontrer un dans le bar, ils se disent « Ah, celui-ci, c'est sûr, ça en est un ».
Il y a un passage très drôle, bah, tant pis, je vais le raconter, c'est moi, il m'a fait tellement rire quand je l'ai traduit. Et encore, je l'avais lu déjà avant, mais en le retraduisant, à un moment donné, donc dans cette fabrique de clapiers, on vend aussi des lapins pour aller dans les clapiers. Et donc il y a un client qui se présente, et le héros, Claudius, repère que ce mec-là, il parle vraiment bien anglais. Et donc il lui demande, mais d'où est-ce qu'il parle anglais comme à la télé? Et il lui demande, mais d'où est-ce que vous venez? Alors l'autre, il dit, ben, moi, je viens de Londres. Ah bon, oui, mais. Avant, de quel pays venez-vous? Et il dit, mais moi, je suis anglais. Et c'est la première fois depuis qu'il a mis le pied en Angleterre qu'il entend parler un vrai anglais. Voilà.
Il y a cette difficulté-là, effectivement, parce que c'est un roman qui, évidemment, rend hommage à toutes les libertés que permet cette ouverture des frontières, mais aussi aux limites et aux déceptions. Les personnages ont envie de s'installer à Paris, ils rêvent de Paris, évidemment, et puis finalement, ils vont se retrouver non seulement à Lille, mais dans une petite ville de la campagne au nord de la France, encore plus perdue. Et c'est comme si ce rêve-là était une sorte de centrifugeuse, et c'est pas forcément évident de s'y accrocher. Parfois, on est renvoyé à la périphérie et même parfois renvoyé dans son propre pays. Vous aviez ce mouvement-là en tête de l'exclusion du centre qu'on cherche à atteindre?
Oui, on rêve toujours de Paris, de Rome, de Londres. Et quand on part et essaie de s'installer, c'est très vite clair que c'est impossible de vivre dans le centre du pays étranger. Il faut chercher les niches, il faut chercher les espaces vides.
C'est ça, les petits plans à la campagne, donc ils se retrouvent à Vimy, dans le nord, ou bien dans le Kent, et pas du tout dans les capitales qui les faisaient rêver.
Oui, en même temps, ils se retrouvent adoptés tout de même.
Oui,
ils ont beau être à la campagne, ils se retrouvent adoptés au sens propre, mais le personnage de l'homme, je vais peut-être y revenir juste après, lui n'arrive pas à trouver sa place, en fait. Il n'arrive pas à adapter son rêve à la réalité. C'est son drame. Et ce que je voulais dire, c'est que les trois personnages masculins, enfin, ces personnages qui émigrent, le moteur, en fait, de cette migration, ce sont les femmes, quand même. Ce sont elles qui font bouger les choses, qui font...
Sauf Renata, qui retient en Lituanie.
Et, oui, qui retient, mais en même temps...
Parce qu'elle veut rester près de son grand-père.
Qui oblige, finalement, son compagnon, qui est très amoureux d'elle, qui est prêt à tout, en fait, à prospecter,
à entreprendre, à
chercher autre chose, à faire des stages. Et... Alors, ce n'est pas elle qui le pousse, mais lui prend ça sur lui pour lui plaire, pour vivre avec elle. Et voilà, il prend les choses en main. Alors que les deux autres personnages sont plus se laissent porter. Et en fait, ils arrivent vraiment à s'intégrer quand ils prennent en main leur destin, finalement.
C'est un très beau roman de l'entraide aussi, parce qu'effectivement, leurs rêves ne se réalisent pas tout à fait comme ils l'avaient souhaité, mais beaucoup de personnes leur tendent la main, leur proposent du boulot, les hébergent. Il y a notamment ce libraire, François, qui les héberge, qui héberge le couple dans sa librairie, Globe, à Paris. Ce lieu-là, comme refuge, il est symboliquement évidemment très très fort.
Oui, mais c'est vrai. En fait, François Devers existe, il travaille là. Il était le propriétaire, et maintenant il est le directeur. Mais il a aidé des migrants russophones, des Polonais, parce que toujours les migrants cherchent qui peut les aider. Et quand ils voient la librairie russe ou la librairie polonaise dans le boulevard Saint-Germain, les Polonais viennent là pour être aidés. Les Russes, les Bélarusses viennent dans la librairie du Globe.
Et du coup, voilà, tout le monde trouve sa place finalement. Vous amusez beaucoup et on le sent aussi à travers le choix des prénoms des animaux. Sachez donc que le chien s'appelle Googlas, parce que comme Google, il trouve tout. Et le chat, lui, c'est Spamas, parce que... On le désire un petit peu moins, mais il est quand même là. Donc il y a le spam, Spamas. Et dans tous les moindres détails du roman, vous glissez des inventions et beaucoup, beaucoup d'humour. Et c'est extrêmement réjouissant. L'heure a tourné. Peut-être que vous avez envie d'intervenir ou de poser une question qu'on n'aurait pas abordée ou de réagir tout simplement à ce qui s'est dit. Un micro est à votre disposition. Si vous voulez vous en saisir, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir Andrei Gourkov et Paul Lequen avec nous. Profitez-en. Est-ce que parmi vous, il y a des questions. Est-ce que certains ont lu le roman? Oui, monsieur.
Oui, Добрый день, Андрей Курков. Donc, je sais qu'Andrei Kourkov est russe, mais c'est un écrivain ukrainien. Et donc, dans ce cadre-là, serait-il possible d'évoquer le sort d'Oleg Sentsov, qui est aujourd'hui à son 140e jour de grève de la faim?
Oui, oui. Je sais, il y a des actions en face de l'ambassade de la Russie à Paris. Je suis comme le vice-président de PEN ukrainien aussi. Nous sommes engagés dans beaucoup d'actions pour sauver Oleg Sentsov. Mais je suis très heureux que la France s'engage aussi dans cette chose, parce que si on ne sauve pas Oleg Sentsov aujourd'hui, il va mourir dans les prochains jours. C'est peut-être le plus grand, le plus long grève des femmes dans l'histoire, oui, des protestations. Merci pour ça.
Merci pour cette remarque. Oui.
J'ai presque fini le roman. J'adore Cucutis, je trouve que c'est le principal personnage. Et c'est aussi celui qui est sur Terre. Les autres, ils sont dans un rêve qui n'aboutit pas vraiment. Et seul qui aboutit, c'est ceux qui n'arrivent pas à partir, ceux qui restent en Lituanie. Eux, ils arrivent à s'accrocher. Alors que les autres, quelle panade quand même dans laquelle ils vivent. C'est intéressant, même passionnant, c'est difficile de fermer le livre quand on est dedans. Mais j'ai trouvé que c'était Cucutis qui portait tout le livre.
Il lui donne son énergie.
Oui, et c'est le seul vraiment adulte.
Exactement.
Personnage dans le roman, parce que les jeunes ont sorti sans se préparer pour les voyages.
Oui,
sans,
oui, oui.
Ils ont une vingtaine d'années.
Sans comprendre, sans savoir comment la vie en Europe est organisée. Et bien sûr, ils apprennent l'Europe avec les yeux lituaniens, avec le regard des habitants d'un petit pays.
Oui. Encore une intervention ? Non ? Alors, je vous propose de lire ces quelques lignes pour laisser place au silence après ces 7 heures d'échange en votre compagnie. On revient à Cucutis, toujours sur la route. La veille, un routier laiton l'avait avancé d'une centaine de kilomètres. Cucutis était à l'aise avec les laitons. Leurs deux langues étaient parentes, même si le vocabulaire commun ne permettait pas de soutenir une véritable conversation. Aussi avait-il parlé au début en allemand, puis, la fatigue venant, ils s'étaient tus, chacun dans leur langue. J'aime beaucoup cette expression, se taire dans une langue. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Merci à Paul pour la traduction magnifique.
Le livre est évidemment à votre disposition et d'autres titres d'Andrei Kourkov grâce à la librairie Le Poivre d'Anne. Profitez-en. Merci.